De retour à l'émission Au gré du temps, et nous accueillons avec une grande joie l'évêque de Saint-Hyacinthe, Mgr Christian Renambourg. Vous avez parlé de ce psaume. On a entendu d'ailleurs, pour terminer la première partie, Cœur Moussa. Ça, c'est du chant contemplatif, mais à la manière africaine, avec...
Akora, par exemple.
Le Kora, bien sûr.
Ah oui. Puis une grande joie que j'ai, c'est que dans quelques semaines, je vais aller fêter les 50 ans de collaboration entre le diocèse de Ziguinchar au Sénégal et Saint-Hyacinthe, car il y a cette belle collaboration entre nos deux églises depuis tant d'années, et que le prêtre qui m'accompagnera, parmi d'autres personnes qui seront là aussi, m'a dit, et c'est pour ma plus grande joie, que nous irions à Cœur Moussa. Alors, pour la première fois de ma vie, je vais aller rencontrer ces moines que j'entends chanter sur mes CD dans la voiture.
Et c'est le frère Dominique Kata, parce que vous avez parlé de Corée, qui a introduit cet instrument, la kora, dans la liturgie chrétienne à partir des années 70. Ce qui est intéressant qu'il faut mentionner, c'est que Cœur Moussa a reçu le prix Albert Schweitzer et le père Kata a été élevé en 2016. Par le Sénégal, au rang de trésor humain vivant pour toute l'œuvre qu'il a apportée justement à ce monastère, qui est reconnu par l'UNESCO. Alors, on a entendu tantôt, avant la pause, à celui qui nous aime et les moines de Cœur Moussa. Là, Mgr Renambourg, ce que j'aimerais que vous nous évoquiez, parce qu'on a parlé tantôt de l'influence que pouvaient avoir les lieux, comme la cathédrale de Bruxelles, votre papa a eu une influence aussi. Un jour, il a tenu un propos que vous avez conservé précieusement, et c'est un doux souvenir pour vous.
Oui, c'est... D'abord, papa, il m'a dit ces dernières années avant son décès, ça fait 3 ans qu'il nous a quittés, mais quelques années avant son décès, il m'avait dit d'abord sa joie de vivre dans l'Église d'aujourd'hui. C'était une des premières choses qui m'avait frappé, et il me disait combien il se sentait heureux de vivre dans cette église en liberté, j'allais dire, de pouvoir participer à sa vie, à, j'allais dire, son dynamisme, par rapport à sa jeunesse, où il disait tout le monde allait à l'église, parce que tout le monde y allait, alors qu'il disait, depuis... Ben, des années maintenant, il dit, on y va beaucoup plus en vérité, disait-il, en liberté. Alors, il parlait de son expérience. Et l'autre chose qui m'avait frappé beaucoup et que j'ai jamais oublié, et il m'avait dit un jour, mon fils, n'oublie pas que tu es né dans un pays où nous sommes catholiques. Parce que c'est majoritairement la réalité à cette époque-là, quand je suis né en 1959. Mais aussi, il dit, tu sais, on serait né à 100, 150 kilomètres, on aurait été probablement luthérien. On serait né peut-être quelques centaines de kilomètres plus loin, ou peut-être 1000 kilomètres plus loin, on serait probablement byzantin. On serait né encore un peu plus loin, on serait peut-être musulman ou hindouiste, ou plus au sud, on serait peut-être juif. Et j'ai ressenti chez mon papa ce sens, finalement, du grand respect de l'autre. Et il me disait, mon fils, n'oublie jamais d'être respectueux des gens différents de toi.
C'était pour lui une façon bien imagée d'expliquer l'écuménisme.
On peut dire ça, d'autant plus que dans sa propre jeunesse, donc ça c'est bien avant ma naissance, lui est né, si ma mémoire est bonne, en 1921, un jour dans sa jeunesse, ses parents lui avaient dit, tu sais, si tu rencontres X ou Y, tu traverses la rue. Et mon père a dit, mais non, je vais parler, je vais dire bonjour à la personne X ou Y. Donc très jeune, il a eu ce réflexe, à mon avis, de sagesse déjà, d'ouverture à l'autre et d'écuménisme, effectivement.
Prière païenne, Jacques Brel.
N'est-il pas vrai, Marie, que c'est prier pour vous que de lui dire je t'aime en tombant à genoux? N'est-il pas vrai, Marie, que c'est prier pour vous que pleurer de bonheur en riant comme un fou, que couvrir de tendresse, nos païennes amours, ces fleurirs de prières, chaque nuit, chaque jour. N'est-il pas vrai, Marie, que c'est chanter pour vous, que semer nos chemins de simples poésies? N'est-il pas vrai, Marie, que c'est chanter pour vous, que voir en chaque chose une chose jolie, que chanter pour l'enfant qui bientôt nous viendra, c'est chanter pour l'enfant qui repose en vos bras. Marie, n'est-il pas vrai, Marie?
Si on revient au papa de l'évêque, Monseigneur Christian Rolembourg, il vous a transmis cette notion d'être tous frères et sœurs en humanité.
Absolument, et je crois aussi que papa veillait à ce que toute la famille, on baigne un peu dans cet esprit de fraternité, de solidarité. Et je dirais que, je regarde encore mes frères aujourd'hui, chacun à sa mesure, chacun selon son expérience de vie, etc., donne le meilleur de lui-même. Et à ses enfants, ses petits-enfants, et autour d'eux, chacun. Alors ça, je pense, c'est un héritage de papa et de maman, parce que maman, c'est une femme extraordinaire aussi. Très discrète, effectivement, mais très aimante, puis très accueillante, très dévouée. Et je le vois encore, malgré son âge aujourd'hui, et sa santé défaillante, je vois encore toute sa bonté dans son visage d'aîné maintenant, de 94 ans quand même.
Vous avez eu un parcours quand même assez sinueux. Vous avez été éditeur.
Oui, à Paris.
À Paris.
Très jeune.
Très jeune. Vous avez été nommé prêtre, consacré prêtre, très tardivement. Peut-on dire, vous aviez quoi, 35 ans?
Oui, j'ai 20 jours avant mes 36. Je n'ai jamais regretté cette expérience de vie-là, parce que, quelque part, j'arrivais évidemment en 1989 dans la communauté des Saints Apôtres à l'âge de 30 ans, avec toute une expérience de vie dans le monde de l'édition, effectivement de la presse catholique. Et donc, c'est une belle expérience humaine aussi. C'est pas seulement des diplômes, c'est une vie d'un homme qui a dû travailler, payer ses impôts, comme je dis toujours, et faire ses achats pour manger, pour dormir, pour vivre. Donc, il y a toute cette expérience humaine du quotidien, des enjeux, des défis économiques et autres.
Et c'est ce qui fera probablement de vous un évêque très terrain.
Alors, non, je ne veux pas parler à la place des autres, mais ce que j'entends souvent me dire depuis une vingtaine d'années, au fil des années, on se sent proche de toi et tu es proche de nous, et je suis proche des gens et les gens sont proches de moi. Je crois que c'est fondamental. D'ailleurs, le pape François revient là-dessus très souvent ces 5 dernières années, pour ne pas dire sa 6e année encore, maintenant dans laquelle il est. C'est d'attirer notre attention comme pasteur, d'être proche du peuple de Dieu en marche. Parce que nous marchons ensemble. Nous sommes ensemble sur le chemin de la sainteté, pour reprendre encore un de ses thèmes favoris, avec « Soyez dans la joie et l'allégresse ».
Oh.
Nous venons d'entendre le chœur du monastère de Cetinje, un monastère orthodoxe serbe situé au Monténégro, en ex-Yougoslavie. Et ce que nous entendions, c'est « Béni soit le nom du Seigneur ». C'était le chœur de chambre de ce séminaire de Saint-Pierre de Cetinje. Pourquoi cette musique? Parce que Monseigneur Rodenbourg, qui est avec nous, aime aussi beaucoup, on disait qu'il aimait tout ce qui était contemplatif, mais vous n'êtes pas rébarbatif à la musique dite orthodoxe.
Mais non, parce que c'est un des poumons de la richesse liturgique. Il y a le chant grégorien, que nous connaissons bien. Il y a la liturgie slave, qui est l'autre poumon, j'allais dire, de notre liturgie. Et au milieu de tout ça, il y a toutes sortes de variantes. Je regarde au Québec, on a un chanteur guitariste qui est Robert Lebel, qui apporte ses couleurs. On en a les moines de Tamiers qui apportent leur autre couleur, par exemple en France. Je pense qu'il y a... On parlait tout à l'heure des moines de Cœur-Moussa. Voilà encore une autre approche musicale. Et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Alors moi, ce que j'aime, c'est cette diversité et finalement cette complémentarité aussi musicale.
Alors, Église universelle, mais Église diversifiée.
Et voilà. Et c'est la beauté, c'est l'unité dans la charité, j'allais dire.
Mais nous n'oublions pas quand même que le Québec a connu une période pratique, quand on parle de célébration du dimanche, beaucoup plus élevée il y a 30 ou 40 ans. J'imagine que pour un évêque, gérer la décroissance, c'est un défi majeur en ces temps.
C'est certainement un défi par rapport à certaines questions économiques, par exemple, c'est sûr, de gérance des bâtiments, etc. Mais je pense que l'autre grand défi, c'est au niveau des cœurs. C'est toute l'annonce de la bonne nouvelle, la tendresse de Dieu, de son immense tendresse, en fait, pour l'humanité. C'est toute l'annonce de la bonne nouvelle des béatitudes, qui est le chemin de la sainteté. C'est, je crois, le grand défi, c'est de rejoindre les reins et les cœurs des personnes aujourd'hui. D'où l'importance d'être diacre, prêtre, agent de pastoral, évêque, pape, pour le pape François, proche du peuple de Dieu en marche. Et que les gens saisissent qu'on est solidaires dans ce chemin de vie, qui est un chemin magnifique d'amour, de tendresse, d'espérance, de compassion. Alors c'est un gros défi, mais c'est un défi qui se vit ensemble. C'est inconcevable pour moi de travailler tout seul, assis derrière une table. C'est ensemble sur le terrain. Alors la table, elle est utile, on en a une pour l'émission, mais je veux dire, on doit absolument entrer dans l'humanité, là où se trouvent les hommes et les femmes de notre temps, les rencontrer, les accueillir, les accompagner, faire route avec. D'où l'importance, à mon humble avis, aussi d'un autre passage biblique, qui est le texte des disciples d'Emmaüs, où on trouve toute la pédagogie de Jésus qui fait route avec les deux disciples qui sont abattus par les événements qui se sont passés à Jérusalem.
Thank you.
entendre l'hymne à la charité, tiré de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, surtout quand il dit « L'amour n'est pas jugement, l'amour n'est pas envie ». C'est une lettre merveilleuse qu'on lit d'ailleurs souvent lors des célébrations de mariage.
Oui, et ça rejoint encore un peu ce qu'on se disait juste avant.
Oui.
C'est toute l'importance, justement, que nous, les hommes et les femmes qui avons reçu le baptême et qui sommes les amis de Dieu, les disciples missionnaires ensemble au cœur du monde, mais nous rayonnons ce texte de Saint Paul. Et chacun selon les dons et les charismes que nous avons, qui sont différents, dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos couples, même dans les milieux de travail où on est insérés les uns et les autres. C'est très important de prendre conscience que ce magnifique texte qu'on lit au mariage, effectivement, je l'ai entendu souvent,
oui,
dans le nombre de mariages que j'ai fait depuis une vingtaine d'années, mais je me dis, il faut aussi se dire, c'est bien beau le jour du mariage, mais est-ce que je le vis? Est-ce que je le mets en pratique? De quelle manière? Avec l'être que je suis, et on est tous différents, et c'est ça la beauté. Donc comment est-ce que je rayonne cette puissance de l'amour de Dieu à laquelle je suis appelé
tout au long de ma vie? Et Saint Paul est un personnage important. Il y a un film qui vient de sortir, là. Hollywood se met à faire des films religieux, et on voit à quel point l'influence de Saint Paul dans la pensée de l'Église est importante.
Oui, et dans la mesure aussi que Saint Paul a vécu tout un chemin de transformation. Tout un chemin de conversion.
Et c'est ce qui nous appelle aussi.
Et c'est ce à quoi je suis appelé, moi, le premier. Et c'est pour ça que j'ose en parler. C'est parce que je me le dis souvent à moi-même. Toi aussi, Christian, tu dois te convertir, te transformer, t'enraciner davantage dans l'amour de Dieu pour être capable, justement, en plus, de rendre le service auquel le Seigneur t'appelle.
Vous nous avez parlé de l'abbaye de Tamiers, vous nous proposez le psaume 149, « Et Dieu vient à mon aide ». Et on entendra également un extrait des Hommes et des Dieux, le fameux film de Vaugeois, parce que c'était effectivement le chœur des moines cisterciens de l'abbaye de Tamiers qui interprétait les chants. Un psaume peut-être important, mais c'est surtout ici la couleur de Tamiers.
Alléluia! Seigneur, un chant nouveau.
Alléluia.
Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles.
Alléluia.
Dans l'Israël, joie pour son Créateur.
Alléluia.
Dans Sion, allégresse pour son roi.
Alléluia.
Dansez à la louange de son nom.
Alléluia.
Jouez pour lui tambourins et cithares.
Alléluia. Alléluia.
Son peuple.
Alléluia.
Il donne aux humbles l'éclat de la victoire.
Alléluia.
Que les fidèles exultent glorieux.
Alléluia.
Criant leur joie à l'heure du triomphe.
Alléluia.
Qu'ils proclament les éloges de Dieu.
Alléluia.
Tenant en main l'épée à deux tranchants.
Alléluia. Alléluia.
Des nations.
Alléluia.
Infliger au peuple un châtiment.
Alléluia.
Charger de chaînes les rois.
Alléluia.
Jeter les princes dans les fers.
Alléluia.
Leur appliquer la sentence écrite.
Alléluia.
C'est la fierté de ses fidèles.
Alléluia. Alléluia.
Au Dieu qui est
Monseigneur Christian Rodembourg est avec nous. Nous sommes presque au terme déjà de la première émission, parce que vous allez nous revenir la semaine prochaine. On a trop de choses à se raconter. D'autant qu'il va falloir parler aussi de quelqu'un qui a eu une grande influence au plan de votre pensée. C'est le Père Ménard.
J'espère qu'on en parlera.
On va en parler beaucoup la semaine prochaine.
La semaine prochaine, il faut que les gens reviennent nous écouter.
Absolument. Mais avant de se quitter, je vous demanderai comment résumeriez-vous votre première année comme évêque de Saint-Hyacinthe? C'est une question qui nécessiterait peut-être des heures et des heures de réponse, mais en quelques mots, comment résumeriez-vous cela?
Premier mot, c'est joie. J'aime ce que je vis. Je disais ça avant d'être évêque, quand j'étais prêtre. Donc, il y a une continuité, mais il y a une grande joie. Joie de l'accueil reçu d'abord de mon prédécesseur, Mgr François Lapierre, qui a donné 19 ans de sa vie en service à ce diocèse. Joie de l'accueil reçu des collègues, des confrères prêtres, diacres, des agents de pastorale, de tous les laïcs en rencontrés depuis... J'ai fait 20 000 km de voiture dans le diocèse depuis le 17 septembre dernier. Et c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Mais joie de voir aussi la joie et le bonheur des gens, qu'on se rend compte, qu'on échange, qu'on vit la parole de Dieu. Je dirais que c'est vraiment le mot-clé.
Alors, c'est un beau mot-clé pour terminer cette première émission. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique d'Alexandra Jurjean. On espère vous retrouver encore la semaine prochaine, Monseigneur. Et je pense que vous nous confirmez que vous y serez.
Oui, je serai là. Et vous, serez-vous là?
Bien sûr, et vous à l'écoute également, nous l'espérons. On va se quitter, ce sera notre chant de fermeture. Don de Dieu, ça a été le chant thème du Congrès Eucharistique 2008. Et ce qui est intéressant, c'est que les paroles de cette chanson ont été écrites par Robert Lebel et la musique par Mario Jacques, qui est aussi très présent à Saint-Hyacinthe.
Et c'est le chef de chœur de notre fameux chœur diocésain.
Alors, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Of course.
Oh.